Une nouvelle édition spéciale du 18-20 de France Inter. On réfléchit encore aux conséquences, aux effets du premier tour de la présidentielle. Amis auditeurs, le standard de France Inter est ouvert et attend vos questions à 19h20. Après la gauche hier, le paysage politique à droite ce soir. Le parti Les Républicains a été éliminé au premier tour. Le FN est qualifié. Le paysage est en train de se recomposer. Les lignes idéologiques sont encore mouvantes. Dans quelques instants, à 18h15, quelle politique européenne pour la France? Les programmes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen sont diamétralement opposés. Qu'en pensez-vous? Réformer, refonder, réduire, quitter l'Union européenne? Vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr via Twitter avec le mot-clé Telson. La météo, Élodie Calac.
La météo avec Massif. Vous avez le pouvoir de réduire le coût de votre prêt immobilier en changeant d'assurance emprunteur. Rendez-vous sur massif.fr.
Élodie, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Encore mitigé demain.
Oui, on va encore hésiter entre soleil et nuages, quelques averses de temps en temps. Alors, des averses plus nombreuses l'après-midi entre l'Aquitaine, le Massif central, parfois avec un coup de tonnerre sur la façade est, sur les Pyrénées. Là, davantage de nuages, des averses également, de la neige sur tous les massifs. On n'oublie pas le vent, un petit vent de nord encore assez frais, et puis du mistral de la Tramontane jusqu'à 70 km à l'heure en Méditerranée.
Et des températures encore basses.
Oui, moins 3 à 4 degrés seulement le matin, toujours plus dans le sud-est, 6 à 12 degrés. Et puis l'après-midi, 9 degrés pour Langres et Aurillac, 11 à Lille, à Alençon ou à Besançon, 12 pour Lyon et Poitiers, 13 à Nantes et à Paris, 14 du côté de Toulouse, 16 à Marseille et encore 20 degrés pour Bastia.
Élodie Calac, Météo France, merci.
Du lundi au vendredi à 14h sur France Inter,
La Tête au Carré,
Mathieu Vidard.
Plongé dans le bouillon scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Demain, le monde des cristaux et des quasi-cristaux qui ont valu un prix Nobel à son découvreur. Vos questions et les réponses en direct des chercheurs.
La Tête au Carré.
Avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé L'Attaque.
Demain sur France Inter, à partir de 14h.
France Inter, 18h17.
France Inter, le 18-20.
Avec une nouvelle édition spéciale du 18-20, on poursuit ensemble notre réflexion sur les conséquences, les effets du premier tour de la présidentielle. Aujourd'hui, Marine Le Pen et Emmanuel Macron étaient aux côtés des salariés, de Whirlpool à Amiens. Ils luttent contre la délocalisation de leur usine en Pologne. Et le débat s'est immédiatement placé sur le terrain européen contre les délocalisations de convenance, faire valoir le protectionnisme ou le patriotisme, contre le marché dérégulé, la restauration des frontières, contre la libre circulation européenne, la revendication d'une préférence nationale. C'est un exemple parmi d'autres de la manière dont se structure le débat européen en France. Un exemple, mais pas le seul. On en parle jusqu'à 19h. Intervenez au 01 45 24 7000.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et je salue Sébastien au standard. Vous nous appelez de Bordeaux. Soyez le bienvenu sur France Inter.
Merci beaucoup Nicolas, enchanté.
Enchanté, pareil.
Alors, du coup, je voulais intervenir par rapport à l'Europe. C'est une très bonne émission, un très bon sujet. Alors, le problème qu'on a... Alors, l'Europe, moi, je suis totalement pour. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pour. Le seul problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a une Europe économique, mais on n'a pas d'Europe sociale. Du coup, on se retrouve avec une concurrence totalement déloyale. C'est comme si vous aviez un match de foot à 11 contre 2. C'est impossible de la gagner, on est tout à fait d'accord. Donc voilà, la question que je voudrais réellement poser aux candidats, c'est qu'est-ce qu'ils voudraient faire pour améliorer ça et pour qu'on ait une Europe sociale? Qu'est-ce qu'ils arriveraient à imposer?
Merci Sébastien pour cette question. Alors je n'ai pas de candidat sous la main en studio, à moins que ça m'ait échappé, mais d'éminents spécialistes de la chose économique et de la chose européenne. Restez en ligne Sébastien. Bertrand Badie, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, professeur de relations internationales à Sciences Po. Nous vous avions reçu il y a quelques jours ou semaines pour parler d'Europe et de politique internationale dans le téléphone sonne. Henri Sterdignac, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE, signataire du manifeste des économistes atterrés. Sylvain Kahn, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de géographie et d'histoire à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Restez dans l'Europe, mais une Europe plus sociale. Quelle proposition pour arriver vers cet horizon, ou en tout cas s'y diriger? Qui veut répondre à la question de Sébastien? Bertrand Badi?
Oui, je crois que c'est une question tout à fait centrale. Pourquoi? Parce que l'Europe, elle a une histoire, elle n'est pas figée, elle ne peut pas être figée. Il faut toujours avoir en tête qu'elle a été construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec deux missions précises, et ça rejoint ce que disait notre auditeur. D'une part, construire la paix, là, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait positif et réalisé, et d'autre part, reconstruire économiquement l'Europe. Et c'est vrai que le paramètre social, monsieur a tout à fait raison, n'était pas dans cette logique de départ, qui du coup était une logique associative, c'est-à-dire en Europe, on s'associait pour faire la force, l'union devait faire la force. Aujourd'hui, le contexte est différent. Le contexte numéro un, ce n'est pas le risque de guerre intestine en Europe. Ça reste celui de la construction économique, mais derrière cela, il y a un changement de logiciel qu'il faut faire, c'est-à-dire baser l'Europe non plus tellement sur l'association ne suffit plus, mais sur la solidarité. C'est-à-dire un changement de logiciel. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que les candidats ne se définissent pas par rapport à cela. C'est pas d'Europe ou de l'Europe, sortir de l'Europe ou y rester, c'est changer l'Europe. Le débat pour les 20-30 prochaines années, ça sera quel nouveau logiciel l'Europe a besoin pour se renforcer et pour se situer dans le monde. Il faut pas oublier cet élément aussi.
Henri Sterdignac, économiste, réponse à Sébastien, notre auditeur.
Le problème de fond, c'est que l'Europe, c'est un ensemble de pays et de peuples qui ont malheureusement des intérêts divergents. On peut parler d'Europe sociale, ce qui est bien sûr généreux. Le problème, c'est que les ouvriers polonais n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les ouvriers français. Et que c'est très difficile à concilier. Les Polonais sont très contents d'avoir des usines qui arrivent chez eux. Ils bénéficient du fait qu'ils ont des salaires plus bas. Donc naturellement, il y a deux gagnants dans l'opération. D'un côté, Whirlpool, parce qu'il va pouvoir produire moins cher, et puis de l'autre côté, il faut le dire aussi, les travailleurs polonais. Et quand on dit on fait l'Europe sociale, le problème c'est comment? Est-ce que on va interdire aux Polonais, obliger les Polonais, interdire aux Polonais de profiter de leurs avantages comparatifs, qui sont justement les bas salaires? C'est très difficile. Et le problème de l'Europe, c'est qu'on fige avec la zone euro, on a figé les taux de change. Les taux de change dans la zone euro sont sans doute le franc et sans, enfin. La France a sans doute actuellement un taux de change surévalué, et puis du coup on a des pertes importantes d'emplois industriels qu'on ne réussit pas à compenser, et il est très difficile de dire si on va résoudre ça par l'Europe sociale ou même par la solidarité, parce que
qu'est-ce qu'on fait, Henri Sterdignac? Ce que vous avez décrit est parfaitement logique.
Mais ce qu'on fait d'abord...
Il n'empêche que ça rend fou tout le monde.
Oui, ça rend fou. On est dans une situation difficile. Le seul espoir, c'est que ça va s'arranger à moyen terme. Il faut dire, par exemple, que les salaires dans les pays de l'Est commencent à augmenter. C'est quand même important, notamment en Pologne. Mais d'ici là, on est mal. Il y a des victimes. C'est les classes populaires chez nous. C'est les ouvriers chez nous qui sont victimes de cette concurrence. Et... Ce qui se rajoute à ça, c'est le fait que globalement, dans la zone euro, on n'a pas la politique expansionniste qui permettrait quand même de mettre du sable dans les rouages et qui permettrait que ça se passe un peu mieux. Donc d'un côté, on a une politique restrictive de demande globale, et puis de l'autre côté, on a des taux de change qui conviennent pas pour des pays comme la France. Et puis on a par ailleurs le fait que naturellement, on a accepté des pays à bas salaire, et puis on souffre.
Sylvain Kahn.
Alors moi, je suis bien sûr d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Simplement, ce qui me gêne, c'est que il faudrait surtout pas qu'on imagine que les problèmes qui viennent d'être évoqués n'existaient pas déjà avant l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, sur le taux de change. Bon, là aussi, je suis un peu embêté, tout en étant totalement d'accord sur le diagnostic. Le taux de change, au début, on nous a dit que l'euro était trop élevé. Depuis 5 ans, l'euro n'a pas cessé de baisser. Aujourd'hui, on est quasiment à 1 euro pour 1 dollar. Il y a eu le fameux rapport gallois qui expliquait qu'en termes de compétitivité, l'euro était trop fort. L'euro a perdu presque 30% de sa valeur. Et la situation de l'industrie française n'a absolument pas changé. Donc, moi, ce qui m'ennuie un peu dans dans cela, même si je suis d'accord encore une fois sur le fait qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, c'est que j'ai quand même un peu le sentiment qu'en France, on a tendance à charger l'Europe d'un certain nombre de problèmes sans se demander quelles sont les spécificités franco-françaises aux difficultés qu'on a. Voilà.
Oui, mais bon, on est en France, il y a le temps court d'une campagne électorale extrêmement cruciale. Alors, on peut effectivement dire que les choses ont toujours fonctionné comme ça, qu'on aurait pu les penser autrement, mais elles se cristallisent dans le débat public d'une certaine manière qui est très violente à l'égard de la construction européenne, et elle pointe l'impuissance d'un pays comme la France, pourtant souverain, et qui ne peut pas faire, qui ne peut rien faire pour empêcher, prenons le cas d'Amiens, une entreprise de délocaliser alors que tout va bien, elle marche, elle fonctionne, elle a un marché, il y a des ouvriers qui sont très qualifiés pour la faire tourner, et voilà, et on dit bah oui, c'est comme ça. Bah, oui, il y a rien à faire.
Ça serait le même problème avec les Indes. Hein. Ou la Chine, oui, je veux dire, Whirlpool irait en Chine,
ça serait pareil,
on serait
construction
un peu
européenne.
Dans la même situation. Le problème aussi qu'il faut dire, mais là on va rentrer dans des propos tout à fait scandaleux, c'est que l'Europe nous empêche d'avoir une politique industrielle et nous empêche de prendre des mesures protectionnistes qui permettraient quand même d'atténuer un peu le phénomène. Donc on se retrouve effectivement avec un taux de change qui, pour la France, est quand même élevé. Et puis, d'autre part, on n'a pas de politique industrielle. Ce n'est pas seulement la faute de l'Europe, c'est aussi, bon...
C'est la faute de la France.
C'est une histoire de la France où on n'a pas trouvé de nouveaux modèles industriels après la destruction, ou la mise en cause du modèle du capitalisme d'État. Et puis ensuite, on a le problème qu'on ne peut pas prendre les mesures...
Oui, l'Europe nous
protectionnisme
empêche.
Protectionnisme qu'on pourrait prendre.
L'Europe nous empêche, vous le dites très bien, Henri Sterdyniak, même on arrête la phrase là, on fait pas violence à votre raisonnement. L'Europe nous empêche. Et c'est ça qui est aujourd'hui en débat et qui rend fou tout le monde, comme je le disais, de manière familière, Bertrand Badie.
Oui, je crois qu'il faut même faire attention à un certain nombre de choses. D'abord, on est dans la campagne électorale présidentielle et tout débat politique a tendance à simplifier à l'excès les options qui se trouvent ouvertes. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait caractéristique, pour la première fois de manière très claire dans cette campagne présidentielle, c'est que se forme un nouveau clivage qui n'est plus le clivage droite-gauche, mais nation-mondialisation. C'est-à-dire, en quelque sorte, on explique aux Français qu'ils ont le choix entre deux perspectives, tout résoudre par la mondialisation et l'intégration, ou tout résoudre par le retour à la nation et à l'enfermement national. Bon, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, parce que vous le retrouvez à gauche avec Mélenchon, comme à droite avec Madame Le Pen. Ce néo-nationalisme, c'est-à-dire cette façon de considérer que, par miracle, le retour à la nation pourra tout résoudre. C'est-à-dire, vous dites la France est souveraine. Moi, je ne sais pas si la France est souveraine. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir en tête tout ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années et qui font que maintenant, on ne peut plus raisonner en termes de choix industriels, de choix économiques, de choix politiques, de choix social, autrement qu'en se plaçant dans la mondialisation. Donc, dire que de toute manière, en rejetant ce processus, qui est un processus qui se développe quand même depuis des années, qui touche tout le monde, y compris l'Asie, n'est-ce pas, et de manière particulièrement réussie en ce qui concerne l'Asie, est-ce qu'il est raisonnable de penser que l'une des options en termes de politique publique, c'est de retourner à l'enfermement national, avec d'ailleurs tout ce qui en dérive, c'est-à-dire de fièvre identitaire, de xénophobie, voire de racisme, de posture anti-migratoire.
Non, mais c'est récupérer des outils de souveraineté, de pilotage de la politique économique.
C'est pas seulement le
nous
problème,
sommes,
c'est
nous
que
ne sommes pas dans un supermarché, on ne va pas récupérer des outils de souveraineté.
Alors,
le grand problème, il faut savoir reconstruire l'idée de souveraineté à l'échelle de ce qu'est le monde aujourd'hui. Ce qui manque dans le débat présidentiel en ce moment, c'est, au-delà du tout l'un ou tout l'autre, d'essayer de comprendre ce que veut dire être souverain dans le monde tel qu'il est. C'est là qu'il y a un défaut programmatique et c'est là que l'on précipite les électeurs français dans un faux choix, c'est-à-dire livrez-vous au jeu de l'intégration ou livrez-vous au jeu du verrouillage de la porte.
Non, mais on peut dire deux choses.
Henri Sterdyniak et puis le standard.
D'une part que le même problème se pose aux États-Unis avec la victoire de Trump. Posé en Grande-Bretagne avec le Brexit. Et dans aucun cas, on peut dire c'est un enfermement national.
C'est pas de l'enfermement national.
C'est simplement, il faut quand même voir que les technocraties dans tous ces pays, les classes dirigeantes ont choisi la mondialisation, la globalisation financière sans tenir compte des problèmes qui se posent aux classes populaires et aux travailleurs. Et
oui, mais du coup, c'est pas résolu par le protectionnisme.
Je ne dis pas que c'est résolu par le protectionnisme. Je dis simplement que toute stratégie doit tenir compte de la position des classes populaires et de plus en plus d'une partie importante des classes moyennes. Et quand on a des stratégies dans lesquelles on dit ben on va ouvrir à tout vent et c'est pas grave, on va mettre en concurrence les travailleurs français avec les travailleurs des pays à bas salaire, on va réclamer des taux de rentabilité élevés dans les entreprises, et ben naturellement ça craque. Alors, effectivement, on peut toujours dire aujourd'hui, pendant 15 jours, on va dire, ce discours, il est utilisé, il est dévoyé par Madame Le Pen. Oui, bien sûr. Malheureusement, ce discours, il est dévoyé par un parti xénophobe et raciste. On le sait. Le problème, c'est que la question, elle demeure. Et la question demeure.
Stéphane au standard, bonsoir et bienvenue sur France Inter.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons. Oui, bien, très bien, parfaitement. Voilà.
Bonjour. Simplement, avant de poser ma question, j'aimerais simplement rebondir sur ce qui a été dit sur le Brexit, vu comme un enfermement par un de vos spécialistes. Il ne faut pas oublier quand même que la Suisse, qui est un tout petit pays, qui n'est ni dans l'euro, vous m'entendez ?
Parfaitement bien, allez-y.
Voilà, la Suisse qui n'est ni dans l'euro, ni dans l'UE, enfin, qui n'a pas l'euro, qui n'est ni dans l'UE et qui n'est pas dans l'OTAN, est quand même le pays qui reçoit le plus au monde de conférences internationales. Donc elle n'est pas du tout coupée du reste du monde, ça c'est une chose qu'on a essayé de nous inculquer, mais qui est fausse. Ensuite, je souhaiterais dire que, contrairement à ce qui a été dit dans l'émission, mais aussi avant votre émission, parce que j'écoute France Inter depuis plusieurs minutes, Madame Le Pen ne souhaite pas partir de l'Europe, elle souhaite faire des réformes comme le souhaitait M. Mélenchon. Et faire des réformes au niveau de l'Europe, vous savez très bien, vous autres spécialistes, et je vous remercie pour le...
Ah, on vous a perdu. Allez-y.
Je suis là.
Allez-y, reprenez.
Je voulais dire, oui, donc Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon ne proposaient pas de sortir de l'Europe, mais de faire des négociations pour arriver à des traités qui soient un peu plus favorables envers la France. Mais vous savez bien qu'avec 28 États qui doivent être unanimes sur les questions, c'en est impossible, puisque nos frères polonais et nos frères roumains, qui n'ont pas les mêmes charges, le même rythme de vie, etc., et c'est normal, ne voudront pas que nous-mêmes, on puisse baisser nos charges ou baisser notre TVA pour améliorer la compétitivité des produits fabriqués en France. Ça, c'est une évidence. Et enfin, je voudrais dire, le mot délocalisation, chers messieurs, dames, vous le savez bien, il est dans le dictionnaire depuis 1993. Il fait suite aux accords de Maastricht que le peuple français avait refusé massivement, mais qu'on nous a imposé en force.
Pas les accords de Maastricht.
Je termine.
Stéphane, terminez rapidement, s'il vous plaît, parce que il faut que la parole circule. Allez-y.
Mais pour que vous puissiez comprendre ma question, voilà, il faut que vous puissiez comprendre les bases sur lesquelles je me pose. Et là, on parle de Whirlpool, qui va être délocalisé. En 1993, la société Hoover, qui vend des aspirateurs, s'est délocalisée grâce à l'Europe ou à cause de l'Europe. Moi, ce que je voudrais dire, c'est pourquoi est-ce qu'on fait peur aux Français en leur disant que si on...
La ligne est mauvaise, Stéphane. Je suis absolument désolé. On n'entendra pas la fin de la question, mais le début était déjà extrêmement nourrissant. Sylvain Kahn, comment souhaitez-vous y répondre?
En ce qui concerne Whirlpool et Hoover, c'est ni grâce ni à cause de l'Europe. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'Union européenne, si la France n'était pas dans l'Union européenne, Whirlpool pourrait quand même décider de délocaliser. Je veux dire, c'est pas, il faut pas. Moi, j'ai plutôt l'impression, mais j'entends bien que Stéphane va sans doute ne pas du tout être d'accord avec moi, que si la France n'était pas dans l'UE, des délocalisations, il y en aurait beaucoup plus. Et d'autre part, il faut bien voir que la France est en Europe, je parle sous le contrôle de Henri Sterdyniak, le premier pays où les étrangers, c'est-à-dire les entreprises non européennes, investissent. C'est le premier pays de destination des investissements directs à l'étranger faits en Europe. Donc il faut jamais oublier que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si on dit on empêche de manière autoritaire d'éventuelles délocalisations, il y en a, mais il ne faut pas faire comme s'il n'y avait que ça, ça veut dire que du coup, dans l'autre sens, il y aura la réciprocité.
Ce que disait Stéphane également, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas sortir de l'Europe, ils aimeraient pouvoir...
Je
cite la question de Stéphane. Ils ne veulent pas sortir de l'Europe, ils voudraient réformer l'Europe, mais à 28, ça n'est pas possible, on ne peut pas réformer cette chose-là, Bertrand Badi, vrai ou faux?
Mais là, notre auditeur met le doigt sur un vrai problème, et j'en ajouterai un second. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, lorsque l'on est 28, comme il le disait, il va devenir 27 bientôt, la seule façon d'obtenir le consensus, c'est le statu quo. C'est-à-dire, pour que tout le monde soit d'accord, pour qu'il n'y ait pas de veto, pour qu'il n'y ait pas de blocage, le jeu le plus rationnel, c'est de ne rien changer. Ce qui explique ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'immobilisme de l'Europe, là où le contexte international impose une adaptation très forte des structures et des institutions européennes. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a une vraie crise des institutions européennes. Et là aussi, on n'en parle pas. Parce que ceux qui veulent sortir considèrent qu'effectivement, le problème ne vient pas de là. Et ceux qui veulent y rester, effectivement, ont peur de ne pas avoir des solutions pour résoudre cette question. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Parce que vous parlez beaucoup de souveraineté. Moi, à chaque fois, j'ai des frissons parce que ce terme est utilisé à tort et à travers. Mais une chose est vraie, c'est que le peuple vote à un niveau et que l'essentiel des décisions, dans le cadre européen, se prend à un autre niveau. Quand il n'y a plus superposition entre le niveau délibératif et le niveau de décision, on n'est plus dans une logique démocratique. Et le grand problème, moi, la grande question que j'ai envie de poser à tous les candidats à l'élection présidentielle, c'est que ferez-vous si le programme que vous élaborez n'est pas avalisé ou accepté par vos partenaires européens? C'est un vrai problème de démocratie et de politique publique sur lequel on n'entend jamais la moindre
réponse.
Oui,
mais qui va nous exploser au visage maintenant, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on le pressent, qu'on l'attend, qu'on le voit venir, qu'il explose, et maintenant on est en pleine campagne électorale en France, et il se pose à nouveau.
Il y a des propositions.
Nous savons tous de cette manière.
Pour aller dans le sens de ce que dit Bertrand Badi.
Nous savons tous,
Henri Sterdignac,
nous savons tous qu'il existe des choses qui s'appelle des programmes nationaux de réforme. Il existe des plans de stabilité que l'Europe, que soi-disant nous avons adopté en concertation avec les institutions européennes, et que tout pays, lorsqu'il change de gouvernement, qui veut s'éloigner de ce qui a été décidé, si on peut dire, eh ben, se retrouve en proie aux pires difficultés et aux pires menaces. Hein. C'est l'exemple de la Grèce. L'Europe est un corps peut-être mou, peut-être dont on peut penser qu'il ne fonctionne pas, n'empêche qu'il mord, et on voit avec la Grèce, on va le voir avec la Grande-Bretagne, c'est un corps qui veut absolument imposer un certain nombre de réformes structurelles et un certain nombre de marches vers le modèle libéral. Et donc, à partir de là, on voit très bien qu'il y a trois solutions. La première, celle de M. Macron, qui consiste à dire, eh ben, on va obéir, on va effectivement, pendant quelques années, accepter le plan national de réforme et le pacte de stabilité. Donc, à ce moment-là, il n'y aura aucun problème. Il y a la stratégie aventureuse, disons-le, de Mme Le Pen, disant, on va sortir. Et puis, il y a une troisième stratégie consistant à dire, il faut faire une alliance en Europe, effectivement, pour changer d'Europe et pour
une
aussi
alliance
bien
de quelle nature
une alliance avec un certain nombre de pays, une alliance politique avec un certain nombre de forces syndicales et politiques. Oui, il y a un problème en Europe. Et le problème aujourd'hui,
Henri Sterdignac, ça vous semble possible de réformer l'Europe? Parce que vous avez parfaitement décrit les scénarios. Le troisième que vous évoquez, celui d'une alliance, on voit intellectuellement à quoi il pourrait ressembler. Mais est-ce que c'est possible, tout simplement?
Le troisième, ça fait courir le risque, on le sait, du blocage total, parce que certains pays ne l'accepteront jamais. Et le problème, c'est qu'on est actuellement dans une situation sans issue. On peut en discuter longtemps. Il faut dire clairement, l'Europe actuellement, c'est un carcan et il n'y a pas de solution claire. Bon, il faut attendre une crise importante pour que ça change. Mais
là, on y est, hein, quand même. Ben Sylvain Cahn.
Alors, des solutions, évidemment, il y a Il n'y a pas de bing-bang possible. Mais pourquoi il n'y a pas de bing-bang possible? Pour deux raisons. D'abord, parce que ça a été dit, il y a un certain nombre d'intérêts qu'on pourrait presque qualifier d'intérêts de classe, qui, de manière transnationale, n'ont pas forcément envie que les choses changent. Et effectivement, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que, quelles que soient les réformes qu'on mettra en œuvre ou qu'on ne mettra pas en œuvre, si les Européens, les dirigeants européens, ne s'attaquent pas à la réduction des inégalités, quelle que soit la réforme, ça ne marchera pas. Donc ça, pour moi, c'est le chantier numéro un. Et j'ai envie de dire, ça dépend pas... Il faut changer les institutions, mais on peut le faire sans changer les institutions. Bon, maintenant qu'on a dit ça, je crois que dire qu'il n'y a aucune solution à court terme ou pour essayer de changer les choses, c'est un peu sévère.
Mais c'est faux.
Non, c'est pas faux. C'est-à-dire que, c'est pas exact. Si on prend le programme de Hamon ou le programme de Macron, tous les deux proposaient pour Hamon et proposent pour Macron un Parlement de la zone euro, c'est-à-dire une tentative pour essayer de mettre de la démocratie et de la souveraineté populaire dans cette Europe de l'euro où, pour l'instant, seuls les chefs d'État et de gouvernement et la Banque Centrale Européenne décident. Est-ce que ça marchera? J'en sais rien. Bertrand Badie est très pessimiste sur ce genre de rafistolage. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a personne qui s'en soucie. Et la deuxième chose, mais Henri Sterdyniak le disait implicitement, c'est qu'il y a quand même une caractéristique française consistant à dire « Nous, on sait ce qui ne va pas, on a trouvé la solution, il n'y a qu'à attendre que des pays soient d'accord avec nous ». Ça fait 15 ans que les dirigeants français disent ça, ça fait 15 ans qu'ils sont tout seuls, et donc aujourd'hui...
Et ça fait 15 ans que la colère monte.
En France.
Oui, enfin, pas seulement.
Surtout en France, pas que en France, mais surtout en France.
Bertrand Badie.
Oui, deux choses. Je crois qu'effectivement, le plan C que vous évoquiez, cette coalition, cette alliance, c'est vrai... on en parle, elle reste toujours terriblement abstraite, c'est-à-dire concrètement c'est qui pourrait participer, l'Espagne de M. Rajoy, ce serait l'Italie dans son instabilité, il faut bien dire actuellement dans l'anonymat de sa direction, Chypre, Malte, c'est un véritable problème, c'est-à-dire on ne voit pas cette équation, et même la verrait-on. Et j'en reviens toujours au même problème, on est bloqué par cette espèce de rigidité institutionnelle qui caractérise l'Europe. Alors, est-ce que ce sont des lamentations qui vont se pérenniser d'année en année? Pas forcément. Vous savez, M. Sterdyniak, je pense, sera d'accord, le propre de la rationalité économique, c'est quand ça coûte trop cher, on change. C'est-à-dire que ceux qui actuellement... croient trouver dans l'immobilisme européen la façon la plus adéquate de réaliser les intérêts de classe dont parlait Sylvain Kahn tout à l'heure, vont à mesure s'apercevoir que tout ceci est extrêmement coûteux. De même que la bourgeoisie et même les Juncker allemands avaient perçu à quel point le fait qu'il n'y ait pas de politique sociale à la fin du 19e siècle était dangereux, déstabilisant et risqué de leur coûter leur couronne. Donc ils se sont lancés dans une politique sociale. Je crois que la politique sociale vient à partir du moment où le risque encouru par l'immobilisme est trop élevé et que, effectivement, les acteurs cherchent une assurance. Là, je crois qu'il y a effectivement une ouverture. Mais ce qui me fait peur, c'est que dans notre ronronnement électoral, ces grands enjeux sont stratégiquement masqués. Parce que Mme Le Pen ne veut pas entendre parler de ce genre de voix, parce que son logiciel nationaliste et xénophobe s'en trouverait paralysé, et parce que M. Macron joue une logique qui est quand même essentiellement de type immobiliste. Donc, on est dans un blocage. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, à partir du moment d'une situation de blocage, il faut partir de l'Europe, se retrouver tout seul, être dans une logique d'enfermement, et que cette logique d'enfermement, de toute façon, coûtera cher à tout le monde, et en particulier aux classes populaires, il ne faut quand même pas l'oublier.
Ça, c'est sûr.
Là, non, mais on peut être dans une... On peut être dans une logique de blocage et de constitution d'un front. Je veux dire, le problème de la France, le problème aussi de la France, c'est que elle a toujours joué de manière extrêmement floue. Je veux dire, Hollande a accepté de signer un traité budgétaire qui est, du point de vue macroéconomique, n'importe quoi. Et puis, on s'est engagé à réduire fortement nos déficits. Et puis, naturellement, on l'a pas fait. Alors, on aurait été beaucoup mieux il y a 5 ans de dire, non. On n'a aucune raison de réduire nos déficits compte tenu de la situation économique. Ce n'est pas la France qui est responsable des déséquilibres en Europe. On était le pays qui était le pays médian.
Donc on aurait pu dire à l'Allemagne... possible de faire de la politique, non, à vous entendre, Henri Sterdyniak.
La politique qui...
Ou de la porte qui claque.
De la porte qui claque, la politique du général de Gaulle, bon, ça existait.
Et, oui, après, et ça, c'était bon, un tout autre contexte, c'était une Europe à 6, on était en pleine prospérité... C'était les 30 glorieuses, je veux dire aujourd'hui.
Oui, d'accord, non, mais il faut bien à un moment donné rompre les consensus qui sont mortels.
Mais sauf qu'aujourd'hui, ça veut dire tout seul, quoi. Je veux dire, si
tout seul avec d'autres pays. Il existe des choses qui s'appellent la Confédération européenne des syndicats, avec lequel la France pourrait. Dans lequel, bon, voilà, on n'est pas seul.
Il y a aussi un Parlement
européen élu au suffrage universel direct.
Il y a un Parlement européen et c'est un problème, il n'a rien fait.
Une fois qu'on a une institution démocratique en Europe, c'est un problème, c'est quand même gênant.
Bah non, le problème, c'est qu'elle n'ait rien fait. Allez, on passe au standard. Dominique, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci de prendre ma question. Depuis le début, je ne vous entends pas parler une seule fois d'une solution donc, qui a été évoquée plusieurs fois, l'Europe des 12. Effectivement, c'est très compliqué de faire les choses à 27. Il y a une disparité économique énorme, effectivement, entre la Roumanie et l'Allemagne. Alors, ma question, elle est très simple. Il faut, pour créer une Europe des 12, y a-t-il aujourd'hui des blocages juridiques européens pour arriver à cette Europe des 12, ou ce n'est-il qu'une question politique ?
Merci Dominique pour cette question extraordinairement claire. Sylvain Kahn.
Alors, faire une Europe des 12 au sens où on ferait l'Union européenne à 12, ça aujourd'hui, disons, je ne dis pas que c'est impossible à faire, mais ça supposerait en fait que les 12 pays en question décident de recréer une Union européenne sans les autres. Bon, c'est un choix politique, on va dire, je ne sais pas si c'est à ça que Dominique pensait implicitement. Par contre... ce qui est tout à fait possible de faire dès à présent, évidemment, il faut négocier de nombreuses heures et de nombreux jours, c'est ce qu'on appelle des coopérations renforcées. Ça veut dire que sur un certain nombre, sur des projets déterminés, sur des politiques publiques sectorielles, je ne sais pas moi, l'Europe de la défense, l'Europe de l'industrie militaire, tel
ou
tel...
On avance en groupe, ceux qui veulent avancer, avancent.
Voilà. Et là, effectivement, le minimum, c'est 9 États membres. Donc, la réponse à la question de Dominique, c'est oui.
Et donc, c'est une volonté politique, il n'y a pas d'impossibilité juridique.
Au contraire.
Henri Sterdyniak.
Il y a des projets qui sont sur la table, hein, d'une Europe à trois vitesses, à trois cercles, avec les pays qui veulent avancer, les autres, et puis on ferait un troisième cercle pour les pays périphériques, où on mettrait le Royaume-Uni, et puis demain l'Ukraine, le Maroc...
ou la Suisse, ou la Turquie, Norvège, qui sont déjà
etc.,
dans le troisième cercle.
Le troisième cercle. C'est le problème, c'est que d'une part, les pays du deuxième cercle, ils ne veulent pas. Naturellement, ils ne veulent pas être des citoyens de seconde zone. Donc, ça bloque. Du point de vue juridique, effectivement, ils peuvent bloquer. Et puis ensuite, ça suppose que dans les 12, on soit d'accord. Alors, le problème, c'est est-ce qu'on est d'accord dans les 12 pour effectivement donner de plus en plus de pouvoir au niveau fédéral ? On peut toujours parler de défense européenne. La question, c'est est-ce que dans les 12, on a la même vision de ce qu'il faut faire ? Est-ce que l'Allemagne, elle est prête à effectivement intervenir au Mali ? Est-ce que nous, on est prêt à intervenir à l'Est ?
Vous êtes très pessimiste, Henri Sterdyniak.
Oui,
rien n'est possible.
Non, mais je veux dire, on peut tout imaginer. Le problème, c'est qu'il faut bien... Par exemple... est-ce qu'effectivement, dans l'Europe des 12, on va renoncer aux règles stupides du traité de Maastricht en matière de dépenses, de déficit public ? La réponse est bien sûr non. Voilà, donc c'est pour ça que ce n'est pas si simple.
Bertrand Badie.
L'Europe à plusieurs vitesses, elle existe déjà d'un certain point de vue. L'Europe, l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe de Schengen, ce n'est pas l'Europe de l'euro. Voilà déjà trois Europes qui se distinguent aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que l'on ait pris là... un chemin qui vienne radicalement changer les choses. Et ce que dit M. Sterdyniak, moi je le dis aussi et même plus fort, à savoir que je ne vois pas les convergences, y compris dans ce noyau dur, comme on dit, qui serait en train de se constituer. Voyez-vous, ce qui manque, c'est un transformateur. C'est-à-dire comment passer de la délibération populaire souveraine au choix politique. Quand on est dans un cadre national, c'est évident. Quand on ne l'est plus, ça devient très compliqué, surtout quand on oublie le transformateur. Pour l'instant, il n'y a pas de transformateur. Alors, puisque vous nous trouvez pessimistes, il y a quand même des voies à ouvrir. C'est-à-dire que si on veut véritablement qu'il y ait une transitivité entre l'électeur qui vote au niveau national et les décisions qui se prennent au niveau européen, il faut qu'il y ait des porte-parole au niveau de l'Europe. Il faut qu'il y ait des partis véritablement européens. Je veux dire, les questions de politique étrangère, les questions de défense, les questions économiques, c'est des questions que les partis allemands et les partis français devraient pouvoir délibérer ensemble pour qu'il y ait une transitivité dans l'expression politique, pour qu'il y ait un choix qui transcende les choix, je dirais, frontaliers, les choix nationaux. Qu'il y ait véritablement un accomplissement de l'Europe au niveau de ceux qui ont un suffrage à y exprimer. Le fait que pour le Parlement européen, on vote de façon séparée dans chaque État, des partis différents qui n'ont rien à voir, qui siègent dans des groupes qui sont souvent des groupes bidons, c'est-à-dire dans lesquels la véritable...
Ah, vous exagérez là.
Oh, quand même, bidon, vous exagérez. Quand même, je veux dire, l'homogénéité de la gauche européenne, de la social-démocratie, elle n'existe pas. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas une pensée politique, un débat politique européen, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait aucune transitivité vers les décisions politiques de l'Europe.
L'Europe n'est pas un pays. Voilà.
Ce qu'il faut dire une fois pour tout. L'Europe n'est pas un pays, n'est pas un peuple. Voilà. Parfaitement résumé, effectivement. Jérôme, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci. Je vous appelle parce que en début d'année, on avait un petit peu parlé du Brexit Bill. Vous savez, cette facture que la Grande-Bretagne, enfin les Anglais devront acquitter.
La cuenta.
Voilà. Et donc, je voudrais savoir quelle pourrait être l'estimation du Frexit Bill si jamais la France donc quitte l'Union européenne. Et donc ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, pourquoi est-ce que finalement on n'en parle pas du tout de ce sujet? Je peux pas imaginer que Marine Le Pen n'ait pas intégré cette note dans son calcul financier budgétaire. Et il me semble que, étant donné que les estimations pour le Brexit Bill vont de 4 milliards d'euros à 60 milliards d'euros, ça pourrait être un argument de campagne assez fort pour Emmanuel Macron, et donc, alors que c'est totalement absent, et voilà.
Eh bien, merci d'avoir posé cette question et inscrit ce sujet dans le débat. Sylvain Kahn.
En fait, c'est parce que... En vérité, c'est très politique cette question-là. C'est-à-dire que il n'y a pas un chiffre gravé dans le marbre qui sortirait de la cuisse de Jupiter. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, la Commission européenne et tous les États membres, sauf le Royaume-Uni, ont intérêt à donner un chiffrage très très élevé pour mettre la pression sur le Royaume-Uni. En vérité, c'est une négociation et qui se résoudra. C'est-à-dire que on peut prendre selon les critères qu'on prend, on peut arriver à un résultat très élevé, le haut de la fourchette que vous évoquiez ou au bas de la fourchette que vous évoquiez. Et on ferait évidemment pareil si on évoquait le Frexit Bill. Donc, je crois qu'il faut En vérité, il ne faut pas chercher ce que serait un chiffre objectif. Il faut plutôt considérer que on arrivera, ou les Britanniques arriveront à ne payer que ce qu'ils ont envie de payer dès lors qu'ils font des concessions et qu'ils trouvent un bon deal avec les autres Européens.
L'addition, s'il vous plaît, Henri Sterdyniak.
La France et le Royaume-Uni sont des pays riches, plus riches que la moyenne de l'Union européenne. Et donc, actuellement, ils payent en net à l'Union européenne. Et cette aide, elle va aux pays les plus pauvres, à la Bulgarie, à la Roumanie, elle va aux régions en difficulté. Donc, si demain, on sort de l'Union européenne, bon, est-ce qu'on va renoncer à aider les plus pauvres de l'Europe? On voit que c'est un problème délicat. Et bon, c'est pas central, on peut dire. Bon, les 60 milliards de plus ou de moins, il faut dire clairement, c'est pas là-dessus que se joue le problème. Le problème actuellement, c'est le Royaume-Uni veut quitter l'Union européenne. Il faut éviter quand même que ce soit trop dramatique pour les Anglais. Il faudra éviter que c'est des conséquences trop dramatiques pour l'Union européenne. Et le risque, c'est que comme à niveau européen, on est extrêmement borné et extrêmement méchant, il y a quand même la tentation de faire payer les Anglais un max que aucun pays européen ne
c'est
soit...
C'est une négociation, personne n'est méchant.
Oui, d'accord, mais si, ah oui.
Bah, non, non, pour l'instant c'est une négociation.
Ah bah, il faut qu'ils payent,
qu'il paye le problème,
c'est... Le Royaume-Uni a toujours voulu le beurre et l'argent du beurre, et en étant dedans, maintenant qu'il est sorti, il veut encore le beurre et l'argent du beurre, le, c'est normal qu'on ait une négociation.
Le problème, c'est est-ce qu'on arrive à une négociation gagnant-gagnant, ou est-ce que l'objectif c'est de faire payer le Royaume-Uni? On a un exemple quand même qui se pose, c'est le problème de la Grèce qu'il faut quand même évoquer. L'Europe, globalement, essaye au maximum d'oppresser ce malheureux pays, et au Parlement européen, soi-disant élu de manière démocratique, on ne voit pas...
Il n'est pas élu de manière démocratique, le Parlement européen.
Soi-disant élu de manière démocratique, on ne voit pas des députés dire « mais c'est pas possible, on va pas continuer à plonger un peuple dans la misère, c'est quand même un problème ». Parce que à l'échelle européenne, il n'y a pas d'opinion publique qui pourrait s'inquiéter du sort de la Grèce. On a des peuples différents, on a des Allemands, et même en France, chez Madame Le Pen, on a des gens dont la grande préoccupation, c'est pas perdre d'argent avec la Grèce.
Quoi. Allez, on en reste là, messieurs, l'heure est grave. Hein. Elle l'était à 18h15, elle l'est encore plus, si vous voulez mon avis, à 18h55. Bertrand Badi, Henri Sterdignac, Sylvain Kahn, merci. Tout de suite, l'édito d'Arnaud Le Parmentier.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Du quotidien Le Monde, bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Et dans le droit fil de notre discussion, le retour de l'Europe sociale.
Au secours Nicolas, l'Europe sociale revient. La Commission européenne se jette dans la bataille de l'entre-deux-tours des présidentielles françaises. Jean-Claude Juncker avait fait inhabituel féliciter Emmanuel Macron dès la soirée du premier tour. Et voilà que la Commission présente ce mercredi tout un paquet social pour contrer les populistes et donc Marine Le Pen. Alors depuis 20 ans, le mot social était un gros mot à Bruxelles. Cette rengaine répétée en boucle par les socialistes français avait fini par disparaître. Pour trois raisons. Les riches Allemands et Scandinaves n'en voulaient pas. Laissez-nous gérer notre prospérité avec nos syndicats, disaient-ils. Les Anglais, encore moins. Soyons libéraux, faisons-nous concurrence. La semaine de travail limitée à 48 heures, vous n'y pensez pas, shocking. Les pays de l'élargissement, encore moins. Votre social, c'est votre manière, Nicolas, de nous mettre des bâtons dans les roues, nous empêcher de travailler et d'être compétitifs alors que nous sommes pauvres. Et les Français, ils se vantaient de leur modèle social qui ne donnait d'appétit à personne. Résultat, on en est resté là avec des directives tellement fades qu'elles ne ressemblaient à rien.
Mais le vent tourne.
Eh bien, alors, le problème, c'est qu'on se heurte de plein fouet à la schizophrénie des Européens. D'un côté, ils disent « laissez-nous gérer nos affaires, respecter nos spécificités sociales, que l'Europe ne se mêle pas de tout », et de l'autre, ils dénoncent sans cesse une Europe libérale, lointaine, qui ne s'occupe que des grands agrégats économiques. Bref, le dilemme permanent qui consiste à dénoncer l'Europe sans cesse et à lui demander toujours plus de protection. Alors la donne, effectivement, aurait changé, nous explique que notre correspondante, celle du Monde, Cécile Ducourtu, à Bruxelles. D'abord, les Anglais sont partis, enfin en train de partir. Ensuite, les socialistes veulent redevenir sociaux. Et puis les chrétiens démocrates aussi, qui ne veulent pas se faire distancier. Les Allemands ont réduit le rôle des syndicats, introduit un SMIC. Et les pays de l'Est commencent à s'enrichir. Les Polonais subissent un afflux d'immigrés ukrainiens, et bien tout d'un coup, ils découvrent eux aussi les vertus mais les vices de ce que l'on a appelé le dumping social. Bref, il y aurait, selon Cécile Ducourtieu et surtout de Jean-Claude Juncker, ce qu'on appelle une fenêtre de tir, celle d'une Europe qui protège, comme l'a dit Emmanuel Macron au soir du premier tour.
Et concrètement, il y a quoi dans les tuyaux ?
Il y a toute une série de directives, avant tout indicatives. Alors l'idée progresse d'avoir un SMIC européen qui ne serait pas partout le même, mais fonction du niveau de vie de chaque pays. L'objectif est de combattre les travailleurs pauvres. Seconde piste, défendre l'équilibre vie privée, vie au travail. Vous connaissez ça, Nicolas, avec un congé avec un congé de paternité de 10 jours, un congé parental de 4 mois, et puis aussi une réécriture de la directive sur le temps de travail, car la limite de 48 heures n'est respectée par personne. Alors, franchement, on est très sceptique. Ces mesures ne sont pas contraignantes, elles vont donner lieu à un procès en dénonciation, car forcément, ce ne sera pas suffisant pour les Français qui diront que l'Europe ne fait que mettre des minimums vers lesquels on pourrait converger. Alors, l'Europe n'arrive pas à lutter contre la fraude sur les travailleurs détachés. Elle ferait mieux de se concentrer sur quelques projets très concrets plutôt que d'annoncer l'Europe sociale sans être en mesure de l'imposer. Et le meilleur socle social, Nicolas, c'est la réforme dans chaque pays, celle qui fait baisser le chômage. On a eu 43 000 chômeurs en plus au mois de mars cette année.
Un micro-mot, Bertrand Badi, sur cet édito.
Oui, moi je crois que c'est un problème de composition d'histoires différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, comment peut-on abolir des cultures du social qui ont mis plusieurs siècles à se construire ? Et effectivement, dans ce type de situation, on ne sait pas trancher entre des histoires qui sont censées se conjuguer et qui ne se conjuguent pas. Ça mériterait quand même plus que quelques slogans. C'est-à-dire, ça mériterait une véritable délibération. Vous savez, on n'a pas du tout parlé, heureusement, du couple franco-allemand. C'est-à-dire que dès que les choses ne vont pas, on dit « il faut relancer le couple franco-allemand et trouvera la solution ». Oui, mais sur quelle base ?
Merci Bertrand Badi, merci Arnaud Leparmentier. À 19h20, la suite de notre édition spéciale du Téléphone sonne. Ce soir, le paysage politique à droite, on a parlé du paysage politique à gauche hier. La droite sort, elle aussi, fracturée de la présidentielle. Le FN est en tête, le parti Les Républicains éliminé. Chez Les Républicains, le débat a été immédiat. Il faut changer de ligne pour les uns aller vers le centre, pour les autres durcir encore le discours de la droite. On essaye d'y voir plus clair avec vous, amis auditeurs. 01 45 24 7000.